Bonjour à tous et bienvenue à la reprise de Chant contre Chant, rendez-vous mensuel avec le cinéma proposé par l'association Profil sur l'antenne de Fréquence Protestante. Émission présentée par moi-même, Jean Lot, et qui sera animée par Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour à tous.
Françoise Lot, bonjour Françoise.
Bonjour.
Et Jean-Michel Zucker, bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Si c'est la rentrée de Chant contre Chant, c'est aussi celle du cinéma. Avec déjà sur l'écran plusieurs films ayant fait partie des sélections du Festival de Cannes, mais aussi avec la découverte de nombreux autres films qui, pour être restés étrangers à cette sélection, n'en méritent pas moins largement le détour. Difficile donc de faire un choix, mais comme il faut bien en faire un, nous avons finalement retenu trois films sortis à Cannes avec des fortunes diverses. Nous commencerons ainsi avec Ilo Ilo, premier film du tout jeune auteur singapourien Anthony Chen, qui a été couronné par la prestigieuse Camélia d'Or. Les deux autres concerneront des auteurs nettement plus connus, puisqu'il s'agira d'abord de « Ma vie avec Liberace » de Steven Soderbergh, puis de « Jimmy P. psychothérapie d'un indien des plaines » d'Arnaud Desplechin. Deux films qui, l'un comme l'autre, n'ont pas connu les honneurs du palmarès. On pourra se demander pourquoi. Et puis, comme toujours en fin d'émission pour élargir l'éventail, nous laisserons la place à trois coups de cœur. Commençons donc avec « Ilo Ilo », le film d'Anthony Chen. Que sait-on d'Anthony Chen ? Pas grand-chose, sinon qu'il est né à Singapour en 1984, qu'il a commencé ses études cinématographiques dans son pays avant de les poursuivre à Taïwan puis à Londres, et qu'en autre court-métrage, il en a réalisé deux qui ont été reconnus au plan international et couronnés en particulier à Cannes. Avec Ilo Ilo, c'est un peu la consécration, puisqu'il a reçu à Cannes une caméra d'or attribuée à l'unanimité et au premier tour par un jury présidé par Agnès Varda, et que c'est le premier film singapourien à être couronné à Cannes. Primérité. Personnellement, j'ai énormément aimé ce film, sensible, discret, retenu. Petite fiction de l'apprivoisement qui raconte l'histoire d'une jeune Philippine, Teresa, embauchée comme nounou par une famille de Singapour pour s'occuper de leur fils, Yale, dont ils ne viennent plus à bout. Mais je sais que nous ne sommes pas tous d'accord à son sujet autour de cette table. Françoise, je crois que toi, tu fais partie de ceux qui ont applaudi à ce film.
Oui, ce film m'a touché, intéressé, étonné. Il m'a étonné peut-être parce qu'il n'est pas seulement ce qu'il semble être. Et certes, comme tu le dis, c'est une petite fiction de l'apprivoisement très émouvante, mais c'est tout autant un film sur la brutalité d'un système qui met hommes, femmes, enfants à genoux. À genoux devant les impératifs économiques de la Singapour en crise de 97, et plus généralement, à genoux devant l'obligation de la réussite sociale, et ce qui est pire, l'obligation d'en maintenir l'apparence. Pour ma part, j'aime ce film discret qui tient davantage de l'aquarelle et de la musique de chambre que de la fanfare ou de la fresque haute en couleur. J'aime aussi les choix du réalisateur, l'économie des moyens, l'économie des effets. Parce que sous ces demi-teintes se cache un monde d'une grande violence. Une violence sourde et partout à l'œuvre.
À quel moment du film fais-tu allusion ?
Je pense à la violence exercée contre la nounou philippine Terry. On apprend qu'elle a confié son bébé de 1 an à sa sœur pour pouvoir gagner un peu d'argent en allant travailler à l'étranger. Et à peine arrivée dans la famille qui l'emploie, elle se voit retirer son passeport. Elle va dormir sur un matelas. Un matelas à côté du lit de l'enfant difficile dont elle doit s'occuper. Je pense à la violence exercée contre le petit Gial, 10 ans, qui est tellement insupportable que sa mère ne sait plus qu'en faire. Mais Gial non plus ne sait plus quoi faire, sinon des bêtises, pour qu'on s'occupe enfin de lui. Et que dire des châtiments corporels auxquels il est soumis publiquement dans son école. Quant à sa mère, fortement enceinte, elle travaille sans relâche, dans un bureau grand comme un bocal, et sa tâche consiste à taper des lettres de licenciement. Et justement, le père se fait brutalement licencier. Il est fou de colère, fou de honte, et il n'a plus qu'à cacher à tous le déshonneur qui l'accable.
Mais cette violence de la société dont tu parles, en grande partie d'ailleurs liée à la crise économique, est tout de même adoucie par la relation qui se noue entre l'enfant et la nounou, entre Yale et Teresa.
Oui, mais oui et non. Parce que le départ brutal de Terry, parce que ses patrons n'ont plus les moyens de la payer, est un moment très émouvant du film. Toute la famille est dans le taxi qui emmène Terry à l'aéroport. L'enfant a le visage décomposé par le chagrin. Il serre Terry contre lui tellement fort que quelques cheveux de la jeune femme lui restent dans la main. Mais Terry descend du taxi et elle s'éloigne, tout doucement, sans se retourner. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle va rejoindre son enfant à elle. Et Gial, lui, tient les cheveux serrés dans sa main. Est-ce que c'est violence ou douleur, ou les deux à la fois ?
Et est-ce que l'image souligne cette violence, et de quelle façon ?
Oui, ce serait la violence de l'enfermement. Des cadrages très étroits, la caméra referme sans cesse l'espace, les lieux sont délimités par des cloisons, des portes, des grilles. Et quand les parois sont de verre, c'est encore pire. Aucune intimité, aucun lieu pour être à l'abri du regard de l'autre. Je terminerai en disant que Ilo Ilo est un film subtil, intelligent, qui allie la chaleur humaine, parce qu'Anthony Chen aime ses personnages, et un vrai regard critique sur nos sociétés en crise. Peut-être est-ce bien un réalisateur à suivre.
Je dirais même que c'est sûrement un réalisateur à suivre. Mais Jean-Michel, je crois que toi, tu as quand même... Ce film t'a plutôt déçu par rapport à cette caméra d'or si prestigieuse.
Oui, enfin, c'est une caméra d'or prestigieuse. Et vous en avez très bien parlé tous les deux, Françoise et toi. D'ailleurs, le film a reçu récemment le prix du jury œcuménique en Hongrie, à Miskolc.
Tiens.
Et donc, ça confirme tout à fait l'intérêt qu'on peut y apporter. Moi, je suis un petit peu plus réservé, effectivement. Je trouve que ce film est très estimable. J'ai vraiment pas envie d'en dire du mal. Il est fin, il est minimaliste. C'est une partition écrite en mineur, ce qui reprend un petit peu ce qu'a dit très bien Françoise. Sa mise en scène est dépouillée. Il y a une vraie description de la réalité sociale à Singapour. Avec le cosmopolitisme de cette ville, l'exploitation violente et feutrée qu'on peut y voir. Mais j'ai pour moi l'impression cependant qu'il y a un peu du déjà-vu dans d'autres contextes et je trouve pas vraiment quelque chose d'original dans cette description des effets de la crise de 97 sur la classe moyenne à Singapour. Bien, qu'est-ce qui est intéressant? L'évolution de la bonne Philippine et de l'enfant mal élevé qui lui est confié, leur apprivoisement mutuel tellement important qui provoque la jalousie de la mère, de Yal, leur quête d'affection peut-être plutôt, et leur éveil sensuel réciproque, car tous deux sont mal aimés, et c'est peut-être la notion qui m'intéresserait.
Oui, enfin, moi, un petit peu de toi, je pense que c'est le sujet de base de Ilo Ilo refuse toute originalité accrocheuse. Et quelque sorte, c'est un peu ce qui fait son intérêt. Cette façon de traiter un thème qui semble ultra connu, mais par des moyens qui lui sont propres. Marie-Jeanne, qu'est-ce que tu as?
Écoutez, moi, je suis un tout petit peu réservée aussi, et j'ai pas envie d'en dire du mal après ce que Françoise et toi avez dit. C'est un film qui, à mon sens, enfin, pour moi, m'a paru un peu plat, et de ces films dont on ne se souvient pas. Je parle vraiment pour moi. L'intérêt quand même qu'il présente, en dehors évidemment de cette subtilité, de cette douceur, c'est que on voit très bien comment la présence de cette femme, de cette Philippine, finit par faire tomber tous les masques. Elle fait tomber les gardes du petit garçon, puisqu'il devient finalement gentil avec elle. Elle fait tomber aussi tout le mensonge qui était au sein de cette famille, en ce sens que le mari mentait en disant qu'il avait toujours son travail alors qu'il l'avait pas. La femme n'était pas forcément heureuse dans tout ça. Et d'ailleurs, le tomber des masques est figuré au sens propre par le fait que la femme, oui, à un moment donné
elle enlève son masque.
Elle enlève un masque de beauté qu'elle avait. Donc, ça résume bien tout le film. Bon, c'est intéressant. Mais je ne sais pas si à la longue, il m'en restera une grande impression. Voilà.
Oui, je ne partage pas votre
bien
opinion.
Sûr.
Parce que je me demande si finalement... trop souvent maintenant, on a les réalisateurs ont besoin de faire toujours du plus et du nouveau et d'avoir des sujets qui frappent. Si bien qu'il me semble qu'on a besoin de cymbales de plus en plus sonores et qu'on fait de moins attention à une musique discrète d'un pipeau ou d'une flûte à bec.
Ouais. Bon.
D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure dans les deux films dont on va parler, qu'alors c'est des sujets massifs, hein, les autres. Ceci dit, moi, justement, c'est cette légèreté, Françoise, qu'est-ce que tu...
Oui, mais moi, c'est justement ce que j'ai aimé, c'est que c'est un film qui parle doucement. C'est un film qui parle doucement et qui écoute ses personnages. Et c'est rare qu'un film écoute ses personnages. Et il écoute une voix intérieure qui ose à peine s'exprimer, parce que tous ont un masque, parce qu'ils sont sous l'interdit d'exprimer leurs sentiments. Et je pense à la mère avec ce rouge à lèvres étonnant, ce rouge à lèvres tellement vif, qui fait que, sous sa pâleur et sa fatigue, elle affiche un masque de femme en pleine forme, en train de de travailler, de séduire le monde entier. Or, ils ont tous un masque. L'enfant, lui, n'a pas de masque, il est trop petit, il casse tout. Il est insupportable. Et en fait, ce qui casse, c'est l'indifférence qui l'entoure. On a le sentiment que sa méchanceté à l'égard de la nounou quand elle arrive, c'est sa façon de dire, si tu étais pas là, maman, elle s'occuperait de moi. Et c'est ces moments-là du film qui m'ont beaucoup touchée. Maintenant, oui, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est un beau film que je recommande.
Oui, puis enfin, je crois qu'il faut également parler un petit peu de son écriture, parce que je trouve qu'il a une écriture tout à fait remarquable, ce film. Justement, une écriture qui se remarque à peine. Je crois que s'il y avait un prix de la litote ou de la métonymie, on la donnerait à Anthony Chen. Oui. Parce qu'il y a une façon de faire des ellipses et de tout suggérer par l'absence, qui est assez extraordinaire.
Oui, c'est vrai. Mais c'est pour ça que j'ai employé le mot de minimaliste. Bon, il y a le minimalisme sud-américain. J'avoue que j'y suis plus sensible qu'à ce minimalisme du réalisateur Chen, parce que j'ai un peu peur, comme Marie-Jeanne, qu'il ne m'en reste pas beaucoup d'images dans la durée. Et c'est tellement ténu que c'est presque évanescent.
Oui, c'est mon impression aussi.
Oui, c'est plus un film pour buveurs d'eau que pour buveurs de whisky, certainement.
Ah, certainement. Sûrement.
Mais je trouvais qu'il y avait des moments tout à fait remarquables, en particulier la scène du suicide, oui. Où il y a une succession de petites scènes qui en elles-mêmes disent autre chose, contiennent autre chose que ce qu'elles annoncent. Au bout de la scène, sans avoir vu le suicide et sans savoir de quoi il s'agit exactement, on a compris qu'il s'agit d'un suicide par défenestration et qu'on est en pleine crise économique et c'est la crise qui provoque les suicides. Alors que c'est jamais dit au cours des films qui se suivent. Là, il y a un ordre de l'ellipse que je trouve tout à fait remarquable.
On comprend après coup et ça donne du plaisir.
Oui, pour l'ellipse, je confirme. Je suis d'accord.
Oui, de toute manière, si je comprends bien, enfin, tu n'aimes pas. Ce n'est pas que tu n'aimes pas ce film, c'est que tu as des réserves à son égard.
Oui, il faut peut-être qu'il fermente, et c'est le genre de film qui, petit à petit, une fois qu'on l'a vu, au bout d'un certain nombre de jours, voire de semaines, peut-être donner l'envie de le revoir pour confirmer ou infirmer sa position.
D'accord. Ok, bon, on va passer à autre chose de tout à fait différent, alors. On va passer à Ma vie avec Liberace de Steven Soderbergh. Alors là, le contraste est total. On passe d'un jeune auteur qui tourne avec peu de moyens, un cinéma un peu plus intimiste, et on arrive à un réalisateur de 50 ans, au parcours labyrinthique, qui a réalisé 25 films en un quart de siècle, qui a été à 26 ans avec Sexe, Mensonges et Vidéos le plus jeune lauréat de la Palme d'Or, et qui depuis, alternant tous les genres, a tourné aussi bien des films noirs comme À fleur de peau, des films sociaux comme Erin Brockovich, des films post-expressionnistes comme Kafka, ou des films de science-fiction métaphysique comme Solaris. Alors, à quoi peut-on rattacher Ma vie avec Liberace? S'agit-il d'un biopic, parce que cela raconte un moment de la vie de Liberace, ce prince au royaume du kitsch, ce pianiste virtuose devenu idole des musicals et des shows télévisés? S'agit-il d'un film testament, dans la mesure où Soderbergh a dit que ce serait son dernier film? J'avoue que pour moi, d'ailleurs, ses plumes, son strass et ses paillettes, ce film est un petit peu une énigme. Merci Jean-Michel, si tu peux m'aider à le résoudre.
Oui, je ne sais pas si je peux t'aider à le résoudre, mais enfin, pour moi, c'est pas un biopic, car il montre vraiment qu'un seul moment de la vie de Liberace, c'est-à-dire 5 ans de sa vie. C'est Liberace, c'est-à-dire une légende du musical et une star du show business, qui est mort réellement en 1987. C'est pas non plus un film testamentaire, j'espère, car il faut jamais croire aux paroles des réalisateurs qui affirment qu'il s'agit là de leur dernier film. Et en ce qui concerne Soderbergh, je trouve que ce serait vraiment dommage, car ce film est absolument éblouissant. Ce premier téléfilm à concourir pour la Palme d'Or est un vrai mélodrame américain, baroque, irritant, brillant, insupportable, excitant, excessif. Une apothéose du film kitsch et du film sulfureux en raison de sa liaison, de la liaison homosexuelle entre le pianiste célèbre qu'est Liberace et son mignon. Mais aussi et surtout, et pour moi c'est le plus important, c'est un récit émouvant d'une relation amoureuse authentique et d'une certaine façon d'une relation humaine tout simplement entre un personnage dominant flamboyant et un personnage dominé et modeste. Et aux États-Unis, le film n'est pas sorti en salle, car il a été jugé trop gay. Il a été regardé, cependant, par 3,5 millions de téléspectateurs. Et à défaut d'une vraie récompense à Cannes, dont nous déplorons qu'elle n'ait pas eu lieu, Le chien aveugle de Liberace, Baby Boy, a obtenu la Palme d'Or.
Je ne veux pas faire mauvais jeu de mots, Jean-Michel, mais c'est peut-être la seule Palme d'Or qui est méritée. Bon, ceci dit, bon, je suis très attentif à tout ce que tu viens de dire, mais c'est, enfin, ce que tu as défini pour moi, c'est un petit peu le cadre de l'énigme, mais il me semble que l'énigme elle-même, c'est Liberace, c'est un étonnant personnage, mais enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans la discussion.
Oui, bien sûr. Alors, l'histoire est simple. Durant l'été 1977, c'est-à-dire en fait 10 ans avant la mort de Liberace, le jeune Scott Forsom entre à 17 ans, c'est un adolescent, dans la loge du célèbre pianiste. Malgré leurs différences d'âge et d'origine sociale, les deux hommes vont entamer une liaison souvent orageuse qui va durer 5 ans. Ce scénario est écrit d'après l'autobiographie, en quelque sorte, qu'est « Derrière le candélabre, ma vie avec Liberace », et c'est le titre américain « Behind the candelabra », écrite par Scott Thorson avec quelqu'un qui l'a un petit peu aidé à le formuler. La photographie et le montage sont de Soderbergh lui-même. Il y a deux parties presque égales dans le film, en durée. Dans la première, tout se passe apparemment bien pour les deux amants, si des assorties pourtant. Et le résultat de ce comportement subversif qu'est leur exhibition dans le monde du spectacle de Las Vegas et la passion dévorante de Liberace pour l'accumulation d'objets kitsch dans sa demeure à la Louis II de Bavière est pour le spectateur une véritable jubilation. Il est clair cependant dès le début que le contraste entre la boulimie de vie de ce vieil homme et la soumission résignée du jeune homme, dissimulée sous la provocation jusqu'à se laisser imposer des opérations de chirurgie esthétique par son maître amant, laisse planer par moments un très douloureux malaise. De fait, dans la deuxième partie, la relation entre Liberace et Scott se dégrade rapidement et les reproches, la jalousie et le ressentiment s'épanouissent vindicativement. Cette déliaison émaillée d'épisodes dramatiques qui culmine avec l'entrée en scène du nouvel amant de Liberace est hélas le complément prévisible mais nécessaire de la période faste précédente. La mise en scène de cette deuxième partie en est tout aussi tenue que la première. Et à la fin, la détresse si profonde des deux hommes, si vulnérables et si malheureux tous deux, est également poignante.
Oui, il est certain qu'il y a une espèce de construction en balance qui est tout à fait réussie. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Oui, ce qui est fascinant dans ce film, pour arriver à réussir cette construction, c'est la fantastique performance de deux acteurs qui auraient mérité un prix d'interprétation masculine à Cannes. Michael Douglas, dans la peau d'un grand seigneur frivole et superficiel, au sourire si charmeur et si désarmant, mais qui n'a jamais assumé publiquement son homosexualité. Matt Damon, d'autre part, dans le rôle d'un humble dresseur de chiens élevé en famille d'accueil, qui a fait un choix ambigu, sous l'effet d'une attirance pour une vie facile, d'une disposition sexuelle personnelle, de la vanité d'avoir été choisi par une vedette, de la pitié pour la solitude réelle de cette vedette qui est un monstre de la scène, il a fait ce choix ambigu d'accepter d'être le giton de Liberace. Et il va le payer dramatiquement dans son corps et dans son âme.
Oui, sur ce point-là, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi, l'interprétation est assez extraordinaire. Marie-Jeanne et Françoise, comment vous avez trouvé ces deux jeux d'acteurs ?
Ah, moi, j'ai été émerveillée. J'ai été émerveillée par le film. C'est un vrai spectacle, c'est du vrai cinéma. On en sort en ayant participé à quelque chose de tout à fait exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs, en particulier la façon dont Michael Douglas s'exprime, une espèce de phrasé très lent avec des mots qui sortent difficilement. Et j'ai aimé que Soderbergh n'en fasse jamais quelqu'un de maniéré. Il n'y a pas de maniérisme, il n'y a pas de caricature. Il est crédible. Et il reste émouvant malgré ses perruques, ses bijoux, son maquillage, son strass, ses paillettes, ses costumes délirants. Il reste tout le temps émouvant. Et j'ai beaucoup aimé aussi le jeu de Matt Damon qui montre la complexité du personnage de ce jeune homme qui se fait embarqué dans une aventure dont il n'a pas la moindre idée, juste il dit j'y vais parce qu'il a 18 ans et parce qu'il veut y aller. Et cette complexité du personnage qui est si douloureuse a été merveilleusement rendue et par la mise en scène de Soderbergh et par le jeu des acteurs.
Beaucoup. Marie-Jeanne,
oui, j'ai beaucoup aimé le film également, donc il n'y aura pas d'avocat du diable aujourd'hui.
Si, parce que j'ai quatre mots à dire encore à ce sujet.
D'accord. On attend.
D'accord. Jean n'a pas dit son dernier mot.
Voilà. Non, moi, j'ai beaucoup aimé parce que, en fait, au-delà du strass, du brillant, du kitsch absolu, on voit finalement la détresse, vraiment, de deux êtres, même Liberace, qui paraît bien dans sa peau, qui a beaucoup de succès, qui est une vedette. Finalement, il est très vulnérable et ça se manifeste tout au long, en filigrane et parfois de façon très claire dans le film. Donc, c'est ça qui est très émouvant et très touchant. Et j'avoue que oui, c'est un film qui va rester. Alors, c'est peut-être plus important pour les Américains parce que ça correspond à quelque chose de leur culture, puisqu'il a bien existé, qu'il a été très suivi par les Américains. Mais pour nous aussi, c'est très intéressant de voir cette relation
Oui, tout à fait. Là-dessus, je n'ai pas de remarques négatives à faire. Mais par contre, il y a un point sur lequel j'aimerais reprendre Jean-Michel, c'est sur l'intérêt des deux parties. J'ai trouvé la première partie tout à fait fascinante. De toute façon, la façon dont Liberace prend le pouvoir sur Scott est absolument extraordinaire. On a l'impression d'un petit animal qui est pris sous le regard d'un serpent et qui est totalement fasciné, ne peut plus bouger. Enfin, pour moi, c'est un dessin d'un vampirisme comme on n'en a jamais fait. Mais par contre, j'étais très déçu par la seconde partie. Je trouve que c'est tout à fait attendu, c'est tout à fait banal. Et qu'il n'y a plus de trouvailles qui donnent de l'originalité à cette partie extrêmement, extrêmement attendue. Sauf la fin où cette espèce de l'enterrement, où alors on retrouve le mélange entre la réalité et l'imaginaire, c'est très fort, mais sinon, toute la décadence m'a paru sans grand intérêt.
La fin est magnifique.
Objection, votre honneur. Non, moi je ne crois pas du tout ça. Je crois que la première partie, on est sur un petit nuage pendant toute cette partie extrêmement brillante avec cette relation, comme je le disais, de dominant-dominé. Oui, là, c'est fascinant. La deuxième partie, elle est inévitable, parce que on ne comprendrait pas qu'on s'arrête au milieu. Il est évident, dès le début, bien sûr, dans une telle aventure, qu'un nouvel amant va apparaître. On ne sait pas quand. Mais toute cette période de décadence et de disparition de leur lien, de difficultés différentes pour l'un et pour l'autre, de s'en déprendre, mais en même temps d'une affection extrêmement profonde qui va être illustrée dans un moment bouleversant quand, après à l'acmé d'une dispute, il va se produire le fait que la mère adoptive de Scott va mourir et que il l'apprend à Liberace, lequel se rend compte de l'émotion qu'il saisit et lui adresse des paroles d'une très très grande douceur. Et Scott lui dit est-ce qu'on ne pourrait pas tout de même de temps en temps être gentil comme ça entre nous. C'est un moment extraordinaire et évidemment d'un registre tout à fait différent de la première partie, mais qui, à mon avis, n'est pas plus faible.
Je trouve qu'on est dans l'attendu d'un bout à l'autre de cette deuxième partie. Il n'y a plus aucune surprise.
Ah non,
pas du tout.
Non, Jean. Oui, Françoise, je suis d'accord. Non, dans la deuxième partie, c'est justement que naît toute l'émotion du film. C'est ce qui en fait son côté
banal humain.
Mais non, c'est pas banal.
C'est unique, c'est une histoire unique. Une vraie histoire d'amour. C'est magnifique. C'est unique. Ça leur arrive à eux.
Bien, écoutez, on va faire une petite pause musicale et pendant ce temps-là, on réglera nos comptes dans l'intimité.
Parce que je te sens très isolé.
Bien, bien, nous sommes toujours vivants après notre altercation personnelle. Nous allons continuer avec le film suivant. On va reprendre le débat avec Jimmy P, psychothérapie d'Anania des Plaines de Arnaud Desplechin, où je crois déjà à l'avance que nous ne serons pas tous tout à fait d'accord. Enfin, j'exprimais déjà qu'on m'a parlé un regret positif, si je puis dire, c'est que ce film soit revenu de Cannes sans la moindre médaille. Car voilà un film qui sollicite à la fois le cœur, l'esprit, le regard, ce qui n'est pas si fréquent. Et puis, si l'on peut un peu reprocher à Steven Soderbergh de manquer de boussole directrice, ce n'est pas le cas d'Arnaud Desplechin, qui a assurément de La Sentinelle, La Comte de Noël, en passant par Esther Kahn et par Roi et Reine, met toujours en scène la même angoisse, celle de la fracture de l'être humain. Et c'est encore le cas pour Jimmy P. Jimmy P retrace une cure psychanalytique exemplaire, celle de l'Indien Blackfoot, Jimmy Picard, par l'ethnologue juif franco-américain d'origine roumaine, Georges Devereux, le film étant basé sur l'ouvrage éponyme écrit par Georges Devereux. Ceci dit, infiniment émouvant, ce film est bien autre chose qu'une aride mise en page d'un ouvrage scientifique à l'usage des happy few. N'est-ce pas, Marie-Jeanne ?
Oui, absolument. Alors, quel est le propos ? Tu l'as résumé, Jimmy Picard est un Indien Blackfoot qui a combattu dans les rangs de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale en France. À son retour, il présente des troubles physiques graves, vertiges, vision troublée, maux de tête insupportables et même évanouissement. Alors, sa sœur, chez laquelle il habite, va le faire entrer à l'hôpital militaire de Topeka, au Kansas. Et faute de pistes vraiment déterminantes, les médecins vont conclure avec hésitation à une schizophrénie et l'enferment avec des malades mentaux. Mais le docteur Méninger, qui est le directeur de l'hôpital, décide de demander son avis à Georges Devereux, qu'il a eu l'occasion de connaître, qui est un anthropologue et psychanalyste français spécialiste des cultures amérindiennes. Le film, précisément, relate cette relation entre les deux hommes qui passe par de longues séances de conversation. Alors Benicio del Toro, éblouissant, tient le rôle de Jimmy P et Mathieu Amalric, de l'acteur fétiche de Desplechin, le rôle de Devereux. J'ai trouvé ce film absolument passionnant.
En fait, Marie-Jeanne, il y a quand même pas mal de temps de gens qui ont trouvé ça assez aride et ennuyeux et qui sont partis en cours de séance. Oui. Pourquoi ton enthousiasme ?
Ah ben oui, oui, je persiste et je vais vous expliquer pour plusieurs raisons. D'abord parce que la caméra de Desplechin nous montre l'intime des êtres. Pas de grands mouvements. Elle est posée là, sage, comme un psy qui écoute. Et c'est nous qui écoutons et entrons comme des voyeurs heureux dans cette relation qui se noue au fil des conversations entre Jimmy et Devereux. On est d'ailleurs tellement pris par cette conversation que lorsque Devereux signifie que l'heure est passée, on sent une frustration et un soulagement lorsque Jimmy continue de parler de son rêve malgré tout. Devereux amène Jimmy sur le terrain de ses souvenirs cachés, de ses échecs affectifs, de ses traumatismes d'enfance et de ses rendez-vous manqués avec lui-même. Certes, le rêve y tient une part importante, mais Devereux situe son patient dans un contexte sociologique, historique, familial et j'allais dire même ethnique. Devereux a d'ailleurs été l'inventeur de ce que l'on a appelé l'ethnopsychologie. Passionnant aussi parce que très émouvant. Ce n'est pas l'histoire d'une analyse au sens classique que nous connaissons aujourd'hui, mais une conversation entre deux êtres qui ont chacun leur faiblesse, qui portent tous les deux en eux un génocide. Jimmy, le génocide indien par les Blancs, et Devereux, qui était un juif austro-hongrois dont le nom réel était Georgi Dobo, le génocide des Juifs par les nazis. Ce n'est pas une relation classique, verticale, entre un sachant et un malade, mais la réunion de deux faiblesses qui s'épaulent, qui s'alimentent l'une l'autre. Une sorte de psychanalyse réciproque, d'où la naissance d'une grande amitié. D'ailleurs, lorsque le médecin de l'hôpital demande à Jimmy P comment il va, il répond « il va mieux » en parlant de Devereux qui avait eu une grippe. Et Devereux lui-même, dans les images de fin du film, lorsqu'il est sur le divan de son analyste, dit cette phrase très belle qui résume le film, nous sommes deux hommes de bonne volonté qui cherchent ensemble un sens commun.
Oui, il y a quand même quelque chose qui me chicane un petit peu dans le titre du film. Pourquoi ce sous-titre, Indien des Plaines ? Est-ce que le mot plaine a un rôle dans le film ?
Ah oui, oui, oui. C'est finalement le mot qui ressemble le plus au film. Attention, non pas que Desplechin ait fait un film plat, oh non. Combien non ? Mais le mot décrit bien le paysage mental et esthétique de Jimmy P. Il décrit aussi sa solitude. Et le film de Desplechin est ample, comme les plaines qu'il filme et dans lesquelles nous ne sommes absolument pas perdus.
Oui, bon, si je comprends bien ce que tu viens de dire, je crois que ce film, pour toi, aurait largement mérité de recevoir une réponse qu'on passe à Cannes. Françoise et Jean-Michel, est-ce que vous partagez cet avis?
Tout à fait. Et toi, Jean-Michel?
Oui, bien sûr. Là.
Tout à fait. Mais il n'y aura pas de contradiction, là.
Non, je ne pense pas qu'il y aura de contradiction.
Moi, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai énormément aimé la façon dont il est filmé, de façon incroyable. Comment fait-on pour filmer ça? Pour filmer la relation qui se noue entre les deux hommes. Entre deux hommes dont on ne voit pas un médecin et un patient, mais deux hommes qui vont ensemble chercher une aiguille dans un tas de foin. J'ai aimé également la façon dont sont conduits ces entretiens. Et comme tu dis, c'est trop court. On a envie que ça continue et on se réjouit quand ça reprend. J'ai aimé ces premières questions, cette première séance où il lui demande des mots en indien. Le thérapeute apprend la langue de l'autre et c'est très beau. Et non seulement il apprend la langue de l'autre, mais il lui dit « Que veut dire votre nom en indien ?» Et « Que veut dire votre nom de la part d'un juif ?» C'est une question infiniment importante puisque le nom c'est la personne tout entière. Et on sent que là va s'engager une relation très précieuse, très périlleuse et très riche entre les deux hommes.
Oui. C'est vrai. J'en parlerai un petit peu après, parce que j'ai quand même des réserves, et je vais entendre d'abord vos plaidoiries.
Oui, pour mieux les démolir ensuite. Là, oui.
Plaidoirie de la défense.
Moi, je continue sans faire de plaidoirie, mais simplement, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Marie-Jeanne et par Françoise. Je n'ai absolument aucune réserve pour ce film. J'ajoute que l'Indien des plaines, c'est tout simplement le titre de l'ouvrage même de Devreux. Devreux a écrit un des seuls exemples les plus éclatants d'une psychanalyse intégrale rapporté séance par séance, et c'est un pavé énorme qu'il faudrait maintenant, et que ceux qui ont aimé le film vont lire, je vais le faire pour ma part. Mais c'est quelque chose qui a fondé effectivement l'ethnopsychiatrie, et Arnaud Desplechin a eu le coup de foudre pour ce livre, d'une part. D'autre part, il a vu un film de Houston de 1946 qui s'appelle « Que la lumière soit ». Let There Be Light, qui est un document capital sur le traitement psychiatrique des blessés de guerre. Et la conjonction de ces deux observations a fait qu'il a eu une envie folle, et depuis un certain nombre d'années, d'écrire ce film. Alors, Toby Nathan dit que Jimmy Picard était persuadé que Devreux était une sorte de chaman indien, et que Devreux pensait de son côté que l'Indien faisait un transfert de type paternel sur lui. Ce qui est intéressant d'ailleurs, oui, et qu'on doit souligner, c'est que le transfert que fait Mathieu Amalric sur Devreux est proprement fabuleux, puisqu'il a été jusqu'à presque se faire la tête même de Devreux, si on regarde les photos et les portraits de Devreux. Donc, c'est extraordinaire, et des phrases comme celle de Jimmy racontant son rêve à Devreux, qui lui dit: et où avez-vous été après être venu dans mon rêve? Visiter un autre rêveur? Et quelque chose qui donne l'esprit même de la psychanalyse, à défaut d'en montrer le divan ou le face-à-face,
oui,
d'une psychothérapie.
D'accord avec toi. Curieusement, ce que vous venez de dire, je suis relativement d'accord. Mais pour moi, il y a deux parties dans ce film. Il y a toute la partie entre la psychanalyse proprement dite, entre Jimmy P et Devreux, que je trouve absolument passionnante, que je trouve remarquable et même bouleversant. Parce que pour moi, plus qu'un film sur la psychanalyse, c'est un film sur l'amitié. Et je trouve absolument remarquable. Je trouve que jamais l'amitié n'a été filmée avec autant de talent.
On est tout à fait d'accord.
Oui.
Et je trouve que certains moments touchent même à la fusion entre les deux êtres. Et je dirais que bien qu'on ait droit à toute la boîte à outils psychanalytique, y compris le transfert, je dirais presque, à mon avis, c'est davantage l'amitié qui a guéri Jimmy P que la psychanalyse.
Tout à fait.
Ça, c'est pour moi ce qui est positif.
Tu vois qu'on se retrouve.
On se retrouve sur cette partie-là. Mais par contre, ce que je trouve vraiment qui est beaucoup moins bon, c'est toute la partie où, sans doute pour enlever un petit peu de son côté aride à son film, Desplechin a voulu illustrer tout ce qu'il y avait dans l'inconscient de Jimmy, c'est-à-dire ses souvenirs, c'est-à-dire ses rêves. Alors là, je trouve que ça devient beaucoup plus banal. Je sais bien que Bergman, par exemple, avait utilisé ce procédé qui consiste à mettre dans un coin de champ un personnage plus adulte qui regarde qui regarde son passé, mais il y avait, c'était, je trouve, infiniment plus fort. Et je pense que la scène, par exemple, où Jimmy P raconte comment enfant il avait été attiré dans une balle de foin par une petite fille qui demandait de caresser le sexe, je trouve que c'est d'une banalité, d'une maladresse assez confondante pour Arnaud Desplechin. Pour un autre, ce serait génial, mais pour Arnaud Desplechin, c'est pas terrible.
On peut pas du tout dire ça. Arnaud Desplechin est un admirateur de Bergman et de ses fraises sauvages.
Les fraises sauvages, oui.
Il le cite maladroitement.
Mais il le cite, mais il filme, et on peut dire qu'il filme les rêves, c'est tout le contraire de filmer les rêves. Il arrive avec une délicatesse extrême à montrer des épisodes de la vie antérieure de l'Indien et décrire fugacement ses rêves, mais d'une façon qui n'est pas du tout un flashback ou une citation coupée des rêves et qui, à mon avis, s'intègre complètement dans l'histoire.
Oui, tout à fait, mais je trouve même que ces rêves sont très importants parce qu'ils nous aident à comprendre Jimmy P. Le spectateur entre dans la compréhension de ce personnage grâce à son passé qui est revu.
Nous en resterons donc sur cette appréciation positive. Il nous reste encore
et à l'accord que nous avons sur le fait que c'est avant tout un film sur l'amitié.
Oui. Tout à fait. Alors je suis d'accord. Oui.
Et c'est un grand film qu'il faut voir.
Et un des plus beaux films que j'ai jamais vu sur l'amitié. C'est vrai. Donc il nous reste encore le temps maintenant de passer quelques trois films en coup de cœur. Alors François, tu voulais pousser nos auditeurs à aller voir un documentaire qui sort demain
sur les écrans,
ça s'appelle Sur le chemin de l'école.
Voilà, un film qui sort demain sur le chemin de l'école, c'est un beau documentaire de Pascal Plisson qui a été projeté en clôture du festival de Locarno. Il s'agit d'une poignée d'enfants venus des quatre coins du monde, pour qui l'école est une priorité absolue. Et Pascal Plisson les a suivis à la trace, tous les jours, pendant des semaines et des semaines, pour les filmer sur le chemin de l'école, avec leur courage, leur ténacité, leur rire et leur peur. Au Kenya, c'est le petit Jackson, 10 ans, avec sa sœur. Ils font 15 km tous les jours, en 2 heures, en courant à travers la savane, pour rejoindre leur école. Attention aux éléphants, leur dit leur père, ils sont tellement dangereux. C'est Samuel, 11 ans, qui vit en Inde. Mais le petit Samuel est paralysé, ses deux frères le poussent sur un fauteuil roulant pendant plus d'une heure à travers la caillasse et les gués de la campagne indienne pour atteindre la petite école. Et puis, on va au Maroc et on voit Zahira, 12 ans, et deux amis de son âge. 22 kilomètres le chemin pour aller à l'école, 22 kilomètres, 4 heures de marche épuisante en montagne pour rejoindre l'internat. Et enfin, le plus beau, Carlito, 11 ans, et sa petite sœur qui vivent en Argentine. Et c'est à cheval que les deux enfants couvrent tout seuls les 18 kilomètres qui les séparent de l'école, aller-retour tous les jours, 1h30 de chevauchée. Ce sont des enfants qui font des pieds et des mains au sens propre pour aller à l'école. Et leur ténacité et leur assurance nous laissent sans mots. En prime, Pascal Plisson nous offre des paysages somptueux, le spectacle grandiose de l'Atlas marocain, les plaines de Patagonie, la savane africaine. C'est magnifique. En plus, l'équipe du film continue de correspondre avec les enfants. Et le film devrait être projeté dans leurs écoles. À voir de 7 à 77 ans, même après l'école.
Même après, même pour les super seniors. Bien, Jean-Michel, alors c'est tout autre film dont tu vas parler, c'est de Tirer la langue, mademoiselle, un film qui a déjà reçu pas mal d'écho positif, disons.
Oui, pas mal d'écho positif, il commence sa carrière, il vient de sortir. En national, c'est un film d'Axelle Ropert et qui est une jeune réalisatrice dont c'est le second métrage après un premier qui s'appelait La famille Wolberg et qui met en scène trois personnages principaux, trois acteurs que sont Louise Bourgoin dans le rôle de Judith, Cédric Kahn, le réalisateur lui-même, dans le rôle de Boris et Laurent Stocker dans le rôle de son frère Dimitri. Boris et Dimitri Pizarnik sont des frères qui sont inséparables, qui pratiquent une médecine complètement oblative de type généraliste dans le quartier chinois du 13e arrondissement de Paris, très dévoués à leurs patients. Et un jour, ils sont amenés à soigner Alice, qui est une jeune diabétique, que sa mère, Judith, élève seule. Ils tombent tous les deux amoureux de Judith. Et qu'est-ce que ce film ? Eh bien, c'est un conte sentimental et romantique, terriblement romantique et terriblement conte, irréaliste, presque, qui débusque le romanesque dans la vie quotidienne grâce à une nouvelle broderie, un avatar supplémentaire autour du triangle amoureux, mais dont dans ce film, le mystère de la femme qu'est Judith, Louise Bourgoin, et le lien fort qui unit ces deux hommes qui sont frères et qui travaillent ensemble d'une façon pratiquement improbable, fait ici toute la singularité. La mère d'Alice, cette Judith, est d'une beauté épanouie et rayonnante, et c'est un bonheur de la voir circuler dans ce film, dans ses vêtements rouges qui répondent à la robe rouge de sa petite fille. Elle travaille la nuit comme barmaid dans une boîte de nuit, et va involontairement fracasser la belle entente de Boris et de Dimitri en les tenant tous les deux, comme le spectateur du reste, sous le charme pénétrant de sa mélancolie. N'ayant pas peur des bons sentiments, mais sans mièvrerie aucune ni pathos, ce film revigorant et drôle, oui, drôle, où légèreté et profondeur se côtoient, évoque, pour moi, le climat tonique du Havre de Coris Maki. Il est parfois aussi, ce film, proche du cinéma d'Emmanuel Mouret. On en redemande.
Merci Jean-Michel, je n'ai pas vu ce film et tu m'as donné très envie d'aller le voir. Et je passe maintenant la parole à Marie-Jeanne qui va nous parler du Majordome.
Attends, Marie-Jeanne. Oui, le Majordome de Lee Daniels. Lee Daniels est un réalisateur et acteur noir américain que l'on connaît notamment par son film présenté à Cannes l'an passé, Paperboy, qui, par parenthèse, ne m'avait pas spécialement enthousiasmé. Alors, le Majordome est fondé sur une histoire vraie. Le film commence dans les années 20, dans le sud des États-Unis très ségrégationniste, et plus précisément dans une plantation de coton où l'on assiste à une scène terrible où le fils de famille, de la famille donc des propriétaires, viole une femme qui travaille sur la plantation, pratiquement devant les yeux de son mari noir et de son fils. Et lorsque le mari veut intervenir, il la bat comme un chien, ce que légalement il a le droit de faire. Le ton est donné. Alors l'enfant devenu jeune homme s'enfuit vers le nord et à la suite de diverses péripéties finit par occuper un poste prestigieux, celui de majordome à la Maison Blanche. Nous sommes déjà dans les années 50. À travers l'histoire de ce majordome qui en 30 ans a connu 7 présidents d'Eisenhower à Reagan, Daniels retrace l'histoire de la lutte des Noirs pour l'abolition de la ségrégation et la reconnaissance de leurs droits civiques. Même si ce film n'est pas dénué de critiques du point de vue cinématographique, par exemple trop de plans très courts situés en plusieurs endroits pour montrer la simultanéité des situations et l'abus de ce procédé, il est historiquement très intéressant, un peu la suite de Lincoln de Spielberg, et incontestablement très émouvant. On dit qu'Obama, qu'on voit d'ailleurs dans le film, a pleuré, mais il n'est pas le seul. Le rôle du majordome est remarquablement interprété par Forrest Whitaker, qui avait campé, on s'en souvient, un admirable Idi Amin Dada dans le film de Kevin MacDonald, et cette année, plus récemment, cette année à Cannes, qu'on a vu dans le film hors compétition de Jérôme Salle, Zoulou. Un film, à mon avis, à voir malgré quelques petites réserves.
Merci Marie-Jeanne. Avant de rendre l'antenne, je voudrais faire une petite annonce de pub. Signaler que dans le cadre de la grande manifestation protestante, en fait, l'association Profil organise une table ronde autour de deux films parlant d'espérance, Carnet de voyage de Walter Salles et L'homme sans passé de Hakim Coris Maki. Cette table ronde aura lieu le vendredi 27 septembre de 18h30 à 20h30 à l'espace Bugner, 27 rue de l'Annonciation. Parmi les intervenants, il y aura Laurent Gagnebin, Alain Ouzio et André Encrevé. Je crois que le temps est venu maintenant de nous quitter. Merci à Marie-Jeanne, merci à Françoise et merci à Jean-Michel, merci à Arnaud et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à qui nous disons à la prochaine fois. Chant contre chant est désormais programmé tous les quatrièmes mardis du mois de 13h15 à 14h. Nous disons donc au mardi 22 octobre. Voilà, je vous rends l'antenne.